Je travaille sur un réseau de soins palliatifs hein, depuis sa création, ça doit faire une quinzaine d'années. Et je suis aussi médecin coordonnateur sur une EHPAD au centre-ville de Toulouse. Donc, je vais vous aborder un petit peu l'évolution des soins palliatifs et surtout les lois importantes qui ont marqué les évolutions pour la personne malade hein, et en même temps du coup pour les soins palliatifs. Donc là, c'est un rappel sur le fait que soins palliatifs, la personne mourante en s'en occupait déjà depuis très longtemps pendant les hôtels Dieu. Il y a eu un mouvement important anglo-saxon qui sont les mouvements des hospices ou les accompagnements de personnes dans les hospices en Angleterre et notamment avec Cicely Sanders qui était une infirmière travailleuse sociale qui est devenue médecin et qui a fondé le Saint Christopher Hospice où on accompagnait on s'occupait de la souffrance, on s'occupait de la prise en charge de la douleur qui était quand même des choses nouvelles et auprès de personnes atteintes de cancer. Après dans les c'est des gens dont vous pourrez trouver des ouvrages éventuellement, je n'ai pas mis de bibliothèque ce truc là. Vous avez Elisabeth Kubler-Ross que vous avez peut-être entendu parler, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un psychiatre aux États-Unis qui a publié des travaux relatifs aux réactions psychologiques des malades en fin de vie et notamment à parler des émotions que vous avez au moment du deuil, si vous avez des expériences dans l'accompagnement, le déni, la colère, hein, le marchandage, la dépression et après l'acceptation, sachant que ces différentes émotions peuvent arriver dans l'ordre, dans le désordre, ou ne pas arriver du tout. Ça peut être. Après, parler du comité consultatif national d'éthique qui est important quand on fait des accompagnements. Ça a été suite au père Verspirien en France qui dénonçait les pratiques euthanasiques. Si on définit les soins palliatifs par l'OMS, ils cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de la famille. C'est vraiment des prises en charge globales. C'est pas que la personne malade. Et donc c'est face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. C'est vraiment toutes les dimensions de la personne qui sont prises en charge en soins palliatifs et ça c'est vraiment important parce que c'est un peu différent de la médecine qui prenait qu'une pathologie organique. Les objectifs sont de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle, accompagnement du patient et de ses proches, jusqu'au décès et des proches après le décès. Des termes importants comme la dignité de la personne malade, la reconnaissance du patient comme un sujet vivant jusqu'au décès. On a trop souvent tendance à enterrer les personnes avant qu'elles ne soient parties. Et la notion de considérer la personne vivante jusqu'au bout est vraiment très importante. Et une notion importante en soins palliatifs aussi, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire c'est le travail de toutes les personnes qui sont autour de la personne malade. Donc ça va de l'aide-soignante à la personne qui fait le ménage, à la famille, et après à tout le personnel soignant, après il y a les psychologues, l'assistante sociale, enfin toutes les personnes, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, ça, c'est une diapo bon, qui est un peu médicale, hein, mais c'est pour montrer que les soins palliatifs, ils interviennent en fait dès le début d'une maladie grave, hein, parce que on appelle ça maintenant les soins de support, mais on est un peu sur les mêmes. C'est des soins de confort de la personne. Donc dès que vous avez une maladie grave, même si on est sur un traitement curatif avec la visée donc de guérir de cette maladie, on a des symptômes inconfortables. Et ces symptômes inconfortables sont pris en charge par des soins de support. En règle générale, si vous avez un problème cancérologique, c'est pas le cancéro qui va s'occuper des petits symptômes qui vont pas bien, c'est toutes les personnes qui sont autour et qui gravitent et font donc les soins de support. Au fur et à mesure que la maladie évolue, malheureusement, il n'y a pas de guérison, les soins palliatifs et donc les soins de support augmentent avec des soins curatifs qui sont donc pour guérir, qui peuvent s'arrêter. C'est vraiment pour montrer que ça intervient à toutes les étapes d'une pathologie, même dans les pathologies chroniques et dans les pathologies potentiellement mortelles. Alors, il y a quatre lois qui sont importantes par rapport aux droits des malades. Il y aura deux autres lois qui vont se mettre dans les lois, mais les quatre lois importantes, c'est la loi de 1999 avec la loi de Kouchner, où on redéfinit bien les soins palliatifs qui sont des soins actifs. On fait du soin, hein. On n'est pas, ça ne laisse pas tomber les gens parce qu'on est en soins palliatifs. Même s'il n'y a plus de curatif, il y a toujours du soin de la personne. Donc dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave évolutive terminale, leur objectif est de soulager les douleurs physiques, on reprend les mêmes thèmes, ainsi que les autres symptômes, et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Elle met aussi, parle aussi du droit d'accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes en fin de vie. Bon, on n'en est pas vraiment encore là. Cependant, vous avez un réseau de soins palliatifs par département en France. On est moins bien munis selon les départements sur les lits des unités de soins palliatifs. Mais bon, c'est des choses qui progressent. C'est sûr qu'il y a des régions où c'est plus facile d'être pris en charge en soins palliatifs que dans d'autres. Cette loi parle des droits pour les malades et des devoirs pour les soignants. Elle parle, donc c'est les nouveautés, hein, du refus thérapeutique, du fait que la personne malade peut s'opposer à toute investigation ou toute thérapeutique. C'est là où aussi on officialise le rôle des bénévoles hein, en soins palliatifs, qui sont des personnes importantes dans l'accompagnement. Et est abordée aussi la création du congé d'accompagnement pour les proches. C'est-à-dire que pour les personnes qui gravitent autour de la personne malade, il y a des possibilités, c'est pas le nirvana, mais il y a des possibilités en tout cas qui ont été créées. Là, c'est une circulaire, donc c'est pas dans les lois dont je vous parlais, c'est une circulaire de l'assurance maladie. Il faut savoir que quand vous êtes pris en charge sur un réseau de soins palliatifs ou sur un HAD, alors l'HAD c'est l'hospitalisation à domicile. C'est des organismes qui ont été créés en même temps, les réseaux et les HAD, qui permettent de bien faire évoluer les soins palliatifs au domicile. Donc quand vous avez ces associations, qui interviennent chez les personnes malades, on a des possibilités, avec des conditions de mise, des conditions de ressources, des conditions de type de caisse de sécurité sociale, c'est un peu compliqué, on a des possibilités d'aide pour la personne en fin de vie, qui sont des enveloppes qu'on peut utiliser pour avoir plus de personnes à domicile, tout ça. C'est des enveloppes qui sont donc limitées, mais c'est un plus qui est quand même très important. Et en même temps, dans cette loi de la Caisse nationale d'assurance maladie, a été abordé les problèmes de formation des bénévoles et d'avoir des budgets pour les former. Donc c'est vraiment des évolutions importantes dans les prises en charge des personnes malades en fin de vie. En 2002, il y a la loi Kouchner, donc, qui reprend sur les droits de malades, sur le respect de la vie privée et de secret des informations. Quelque chose de très important, parce que plus vous avez de personnes qui gravissent autour d'une personne malade, plus vous pouvez avoir de risques d'informations qui sont divulguées à des personnes qui n'ont pas à être informées de ce qui se passe, donc c'est vraiment très important. du droit à l'information de la personne malade sur les investigations, les traitements ou les actions de prévention. Du droit aussi de la personne malade de respecter son souhait de ne pas être au courant de ce qu'elle a. Sauf si la pathologie qu'elle a a un risque de contamination pour un tiers, exemple classique, le sida. C'est-à-dire que cette personne-là, même si elle ne veut pas être au courant, on est tenu de l'informer parce qu'il y a un risque pour d'autres personnes. Ça introduit la personne de confiance. Je vous développerai certains thèmes après un peu plus longuement, c'est juste pour mettre des points importants. La personne qui sera consultée au cas où le patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Le droit de consulter son dossier médical. C'est des choses qui paraissent maintenant un peu plus courantes, mais en fait, elles sont pas si vieilles que ça. Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé. Et la nécessité de donner tous les moyens pour une vie digne jusqu'à la mort. On arrive à la loi Leonetti, dont on parle pas mal. Donc là, c'est la version 2005. On parle toujours des droits des malades en fin de vie, de l'oxydation déraisonnable. Donc je vous le développerai un petit peu après, de la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir un risque disproportionné par rapport aux bénéfices qu'on veut avoir. La réaffirmation du refus thérapeutique. Si on a un malade qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il y a la notion des directives anticipées qui fait partie de cette loi de 2005, avec le souhait de la personne relative à sa fin de vie, concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt des traitements. La personne de confiance, qui prévaut sur tout autre avis non médical à l'exclusion des directives anticipées, c'est-à-dire que la personne de confiance prévaut sur la famille, sur les proches, et dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement pris par le médecin, et la procédure collégiale, c'est-à-dire que ces décisions, c'est par rapport aux soins, d'arrêt de soins, tout ça, peuvent être prises en équipe avec au moins deux médecins. Et le principe du double effet, que je vous développerai un peu plus tard. Je vous ai juste parlé du mandat de protection future. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. On a souvent tendance, une fois que les personnes ne sont plus capables de gérer leurs affaires, d'avoir des demandes de protection juridique. Il faut savoir qu'il existe. C'est important de le savoir quand on est en bonne santé. En tout cas, quand on est capable de décider les choses, que vous pouvez choisir une personne qui, le jour où vous ne serez plus en capacité de gérer les choses financières ou votre personne, peut le faire à votre place. Donc ça peut se faire sous sous-saint privé ou sous-saint privé ou avec un notaire. Mais c'est vrai que c'est important parce que ça peut, au moment où vous n'allez pas bien, faciliter les proches qui vous accompagnent dans certaines décisions. Alors là, on est plus dans du financier que dans l'accompagnement, mais ça fait vraiment malheureusement partie de l'ensemble des choses qui entourent la personne malade en fin de vie. Ça va être plus chez les personnes âgées, parfois avec des problèmes de démence qui s'installent. C'est vrai que on voit que c'est compliqué quand ils sont plus capables de gérer leurs affaires, il faut faire des demandes de tuteurs, des choses comme ça. Si ces choses-là ont été anticipées quand on va très bien, ça n'est valable que quand c'est mis en action. Ça peut être complètement révoqué si on n'a pas. Rien n'est définitif dans les choix qu'on fait, ils sont toujours révisables. À ce moment-là, on peut le mettre en action et du coup, c'est plus fluide dans toutes les démarches à faire. Dans ces moments-là, on n'a pas vraiment envie de faire beaucoup de démarches. La loi de Leonetti-Clé, donc c'est la dernière de 2016, Donc elle insiste sur certaines choses, notamment sur l'arrêt des traitements possibles avec l'obstination déraisonnable, et surtout insiste sur le fait que l'hydratation et la nutrition artificielle sont considérées comme des traitements à part entière. C'est toujours un petit peu compliqué. L'hydratation surtout parce que c'est la dernière chose qu'on a. C'est plus en maison de retraite que sur des situations de cancérologie, mais voilà, c'est compliqué, mais il faut le savoir. Ça aborde le problème de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui du coup est quelque chose quand même de tout à fait nouveau. La personne hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité. Quand la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité sans que la personne de confiance ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté. Idem pour la limitation ou l'arrêt des traitements. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un choix comme ça qui se fait par un médecin tout d'un coup. C'est, il y a une concertation. Sur d'autres situations, il y a des décisions collégiales. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est les directives anticipées. Avant, elles étaient consultatives sur la loi précédente. C'est-à-dire que le médecin les voyait, après, c'est lui qui décide. Maintenant, elles s'imposent au médecin. Donc, elles ont pris une place, après, avec des exceptions, mais voilà, c'est vraiment une évolution importante. Alors, l'obstination déraisonnable. Les actes peuvent être suspendus ou non entrepris lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien d'artificiel de la vie, conformément à la volonté du patient, et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie. Ça remet beaucoup en question, du coup, vous avez beaucoup, enfin, ça arrive assez fréquemment, des chimiothérapies qui continuent alors qu'on sait que on n'a pas de bénéfice au bout, qui entraîne une altération de la qualité de vie. Vous avez tout un tas de choses. Après, c'est discuté. Le patient peut aussi choisir de continuer à être traité. Ça, c'est aussi une possibilité dans ces directives anticipées et elles seront à considérer. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir arrêter certains soins. Le principe du double effet, dont on parlait donc, précédemment dans les lois, c'est une action, quand on fait une action, elle est suivie de deux effets, l'un bon et l'autre mauvais. Et le mauvais est moralement admissible si, et ça répond, enfin voilà, si l'action est entreprise avec l'intention du bon effet, mais on peut avoir un mauvais effet, et si celui-ci est accepté, l'action est entreprise, je vais vous lire tel que ça sera plus simple. L'action est entreprise avec seulement l'intention du bon effet, non du mauvais effet, même si celui-ci constitue un risque prévisible. Le mauvais effet ne doit pas être intentionnel ou approuvé, mais il peut être permis. C'est-à-dire qu'on va faire certaines actions en sachant qu'on prend un risque pour le patient, mais si le bénéfice pour le patient est plus important pour son confort, même si on sait qu'il y a un risque au bout, et que ce risque parfois est vital, on fera l'action d'être plus confortable pour le patient. Ce qui ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas avoir une action, aucune action ne permet le mauvais effet sans bon effet. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'avoir le mauvais effet. En dessous, c'est les questions d'euthanasie, hein, on va pas. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on ne va pas faire un soin en sachant qu'il y a un risque de décès au bout possible. Pour le décès, on va faire le soin pour apaiser la patiente. Possiblement, on sait que, selon la sensibilité de la personne, au bout, il y a un risque de décès dans certaines situations. C'est qu'en général, le décès devait arriver. Mais ce n'est pas l'objectif qui est recherché. L'objectif, c'est vraiment de rendre la personne confortable. Alors, le patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, c'est quand on a incapacité à soulager la souffrance. Et le traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il y a trois... voilà, ça c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est les situations où on peut avoir ces effets définitifs. On a aussi, on parle beaucoup de la proportionnalité en soins palliatifs, c'est le rapport entre le bénéfice et le risque acceptable, donc de la non-conditionnalité, c'est-à-dire que l'effet positif ne découle pas de l'effet négatif. C'est un peu des manipulements de... le fait, c'est que on recherche pas, c'est toujours la même chose, on ne recherche pas l'arrêt de la vie, on sait simplement qu'on a des traitements qui peuvent avoir cet effet secondaire-là, selon les dosages utilisés et selon l'évolution de la maladie. Mais l'objectif étant toujours de soulager la personne, et on est toujours, en soins palliatifs, on est toujours dans des titrations, c'est-à-dire qu'on avance toujours par petites quantités, pour avoir le moins d'effets secondaires et arriver à obtenir l'effet bénéfique que l'on souhaite. Alors, la procédure collégiale. Quand une personne est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. La décision de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie, et après consultation des directives anticipées, puis la personne de confiance, la famille, à défaut, et un de ses proches. Le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins et celui d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Et en fait, tout cela, c'est pour motiver la décision qui va être inscrite dans le dossier, et toute la procédure est inscrite dans le dossier. Là, on parle de la personne qui n'est pas capable de participer à cette décision, et donc on est avec ces directives anticipées, et malgré tout, il y a quand même... Ça ne se fait pas comme ça au pied levé, on a une directive anticipée, on ne l'applique pas aussitôt. Il y a quand même toute une décision, une équipe, voilà. Alors, les directives anticipées, elles concernent toute personne majeure. C'est sur la volonté, sur la fin de vie. Elles concernent la fin de vie. Elles concernent les conditions de la poursuite, de la limitation ou de la régler, ou des refus de traitement ou d'actes médicaux. Donc c'est aussi bien pour dire j'ai envie d'être traité jusqu'à un certain point que de dire je ne veux absolument pas avoir de tuyau, de respirateur. Voilà. Elle s'impose au médecin, sauf en cas d'urgence vitale, parce que s'il y a une urgence vitale, on gère d'abord l'urgence, parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer la directive anticipée à ce moment-là, et après... On refait le point une fois que la situation est stabilisée sur quels sont les choix des personnes. La décision de refus d'application des directives anticipées à l'issue d'une procédure collégiale est portée à la connaissance PC, c'est la personne de confiance, ou des fois à la famille, ça peut arriver. Et la personne de confiance, elle prime... La décision de refus d'application, elle prime sur la personne de confiance, sur la famille et sur les proches. Ça, c'est la hiérarchie. La personne de confiance est plus importante dans les décisions que la famille, qui sont, elles, plus importantes que les proches. Alors, les directives anticipées, la rédaction n'est pas obligatoire. Elle est libre. Elle peut se faire... Enfin, vous pouvez l'écrire aujourd'hui. Vous pouvez la rédiger... sur papier libre, vous avez des sites où il y a des formulaires, notamment, alors il y a l'HAS, si vous voulez, je pourrais vous laisser des formulaires, je ne sais pas si après vous pouvez les faire passer, ou sur .gouv.fr, vous mettez directive anticipée et vous allez avoir des formulaires. Il y a deux situations. La situation avec une personne qui n'a pas de problème de santé éminent, grave, et la personne qui a une maladie grave et évolutive. Et l'objectif, c'est de dire ce que vous voudrez le jour où vous serez plus capable de pouvoir le verbaliser, si malheureusement cela arrive. C'est important, parce qu'autour de la personne en fin de vie, on a quand même beaucoup de demandes qui souvent sont plus la souffrance des personnes qui accompagnent, parce qu'effectivement c'est compliqué des proches d'accompagner les gens qu'ils aiment au bout de leur vie. Et donc cette souffrance, parfois il y en a qui aimeraient que ça aille plus vite, il y en a, donc on n'est pas dans une bonne distance pour toujours pour pouvoir dire ce que la personne malade voudrait, parce qu'en fait ce qui est important, c'est pas ce que nous on voudrait pour la personne malade, mais c'est ce que la personne malade souhaitait quand elle était capable de l'exprimer par rapport à ses derniers jours. Et ça, c'est important. Alors, quoi écrire? Il y en a qui sont assez précises j'ai eu à rédiger des directives anticipées il y a 2 jours avec un patient atteint de SLA. La SLA, c'est une maladie neuromusculaire qui entraîne une paralysie progressive. Donc, dans sa situation, c'était sa part des membres inférieurs et ça progresse. Donc ce patient ne pouvait plus écrire, ne pouvait parler. Et donc, il avait souhaité que c'est une pathologie où on a nécessité de mettre ce qu'on appelle une ventilation assistée, et éventuellement, quand il y a des troubles de la déglutition des fausses routes, on fait une alimentation par jejunostomie, c'est-à-dire on fait un trou dans l'estomac ou dans l'intestin et on alimente comme ça. Ce patient qui a 38 ans, avec un petit gamin de 5 ans, ne souhaite pas. Ne souhaite pas être appareillé, ne souhaite pas continuer quand il ne pourra plus, comme ça. Donc, il a voulu rédiger ses directives anticipées. Et comme il ne peut pas écrire, on a donc pris le formulaire. Et donc, dans ce formulaire je pense que c'était celui de pointdegout.fr, hein, ils abordent le fait que vous ne voulez pas être réanimé sur le plan respiratoire. Cardiaque, si vous avez un arrêt, sur le fait que vous ne voulez pas être intubé ou avoir une trachéotomie. Il peut partir dans des détails assez précis. Alors, quand on a une certaine pathologie, ça peut être. Ça peut parler, disons, les situations compliquées. Quand on n'a rien, c'est un peu compliqué. Donc, on n'est pas obligé de partir obligatoirement dans des tas de détails. C'est vrai que ça peut être plus aidant. Mais c'est un peu difficile de se projeter dans ces moments-là quand on n'a pas de soucis particuliers. Ceci dit, alors c'est un jeu de cartes, vous voyez jouer avec les cartes tout à l'heure, mais qui vient des États-Unis. C'est un jeu qui est utilisé pour aider à diriger ces directives anticipées. C'est pas encore beaucoup en France, hein. Je reviens du congrès soins palliatifs, donc c'est des choses qui nous ont été présentées. Et donc, il y a 40 cartes qui ont été traduites du coup en français. Et par exemple, vous avez des thèmes comme être soulagé de la douleur. C'est des choses que vous. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est ce que vous voudriez. Ce qui vous semble intolérable s'il y avait des choses graves qui arrivaient. Donc, ça peut être ne pas être angoissé, ne pas être essoufflé, qui sont des choses compliquées dans ces moments-là. Ne pas être branché à des machines. Voilà, ça évoque un petit peu toutes les choses que vous ne voudriez pas. C'est pas obligé d'être avec des termes techniques. Après, je pense que c'est des choses aussi qui peuvent être discutées avec votre médecin. Et puis, il faut surtout que vous ayez une personne de confiance qui pourra, enfin, on va parler de la personne de confiance après, qui pourra en être garant, enfin, en être témoin et pouvoir vous accompagner là-dedans, parce que c'est pas simple non plus pour elle. Voilà. Donc ça peut s'écrire avec des mots tout simples. Après, voilà, c'est la poursuite, l'arrêt, le refus des traitements, toutes ces choses-là peuvent être abordées. Et dans les directives anticipées, on parle aussi de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je vous débloquerai un peu le problème de sédation après, parce que c'est un peu vaste et peut-être un peu... On peut y mettre beaucoup de choses dedans. Voilà, on peut, vous pouvez aussi mettre, il y a un cadre dans les directives anticipées sur votre contexte de vie, sur les choses importantes dans votre vie. Enfin, ça peut, voilà, ça peut vraiment, c'est quand même un testament de vie, c'est, voilà, c'est des choses que vous voulez y mettre. Alors, pour les conserver, il faut vous en donner à votre personne de confiance, vous pouvez en donner à votre médecin traitant, vous pouvez en mettre maintenant dans le dossier médical. Voilà, partagez. Et après, ça dépend où vous en êtes. Donc, les personnes qui tournent autour de vous, c'est bien qu'elles soient informées de cette chose-là. Il faut qu'on sache où le trouver. Et donc, il faut désigner une personne de confiance. Et c'est pas simple pour la personne de confiance de vous assister dans cette démarche. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui vous connaisse bien et qui puisse être, je pense, être un peu dans la même façon de dans les mêmes idées que vous pour ces moments-là. Enfin, en tout cas, d'être capable de pouvoir accompagner sur ces choses-là dans ces moments-là. Donc, il faut qu'elle accepte, parce que vous la choisissez, mais il faut qu'elle accepte. Et après, ça peut être donc les personnes proches, la famille, ça peut être votre médecin traitant. L'avis de la personne de confiance prévaut sur les membres de la famille. C'est un peu difficile à avaler parfois, mais c'est une réalité. C'est la personne que vous avez choisie. C'est pas toujours nos proches qui peuvent... puis c'est pas toujours peut-être facile pour eux non plus, parce qu'ils n'ont pas la même distance, de décider, de pouvoir porter... parce qu'il y a certaines choses qui sont parfois difficiles à porter, hein. Chacun choisit certaines choses, en fonction de ce que peut faire la loi. Alors, ce n'est pas par contre la personne à prévenir. C'est-à-dire que la personne de confiance peut vous accompagner si vous allez dans une consultation médicale pour un peu assister, si vous l'avez choisi. Par contre, le médecin n'est pas délivré de son secret professionnel vis-à-vis d'elle, sauf si vous en faites le souhait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, du coup, est au courant de tout ce qui se passe. Elle n'est au courant que de ce que vous voulez. Qu'elle soit au courant. C'est important. Hein. Elle ne se substitue pas, elle n'est pas là partout. Et on ne va pas l'informer de tout non plus. Sauf si la personne malade nous dit que on peut le faire. Ça ne sera pas la personne prévenue en premier non plus. Sauf si vous le signifiez. En général, quand vous êtes malade, on donne la famille. Mais sauf si vous le signifiez que c'est elle qui doit être prévenue s'il y avait un souci. Alors, elle est désignée par écrit. Il n'y a pas de durée de validité. Avant, on avait des durées de validité et des directives anticipées et du choix de la personne. Là, maintenant, du moment où vous l'avez choisi, ça peut être définitif comme ça peut être révocable à n'importe quel moment. Tout ce que vous faites là, c'est un choix à un moment donné qui peut être modifié quand vous voulez. Comme votre testament chez le notaire. C'est surtout là pour pouvoir servir si vous êtes plus capable de pouvoir dire les choses. Donc la personne de confiance ne décide pas à votre place, elle doit témoigner de qui vous êtes et de votre volonté. C'est important. C'est pas de ce qu'elle, elle ressent. C'est de ce que vous avez, vous, décidé à un moment donné. Donc elle doit vous connaître, elle doit faire preuve de confidentialité, de compréhension pour transmettre vos souhaits de façon fidèle. Donc voilà, formulaire ou papier libre, c'est pareil, c'est bien de le donner aux endroits où vous aurez donné vos directives anticipées. Normalement, sur les directives anticipées, vous mettez le nom de la personne de confiance aussi. Par rapport aux patients dont je vous parlais tout à l'heure, quand la personne ne peut pas écrire elle-même ses directives anticipées, qu'elles soient écrites par un tiers, il faut qu'il y ait deux témoins qui signent en plus de la personne de confiance pour bien dire que voilà, ça a été fait de façon volontaire. Alors, la sédation. La sédation, c'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de la conscience dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et ou mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté par le patient. Là, c'est la sédation. Je ne vous parle pas de la sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'on peut faire des sédations plus légères. Ça arrive, on met des soins palliatifs sur des gens qui sont angoissés. C'est les mêmes produits, hein, mais ils sont donnés à des quantités plus faibles. C'est des produits qui sont très vite réversibles. C'est-à-dire quand elles arrêtent, la sédation arrête. Donc il arrive qu'on mette des sédations parfois juste pour la nuit, toutes légères. Il peut arriver qu'on mette aussi des sédations un peu plus profondes sur des symptômes inconfortables, mais on n'est pas sur les derniers moments de la vie, parce que la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, c'est dans les derniers moments de la vie, c'est pas à n'importe quel moment de sa pathologie. Donc il peut arriver que sur des symptômes inconfortables, on mette des sédations pendant un temps, qu'on essaye d'arrêter, on voit comment ça se passe, on fait des va-et-vient en fonction de ce qu'on arrive à soulager, parce que certaines fois, même en unité de soins palliatifs, ça peut être compliqué. Par contre, elle va être mise de façon urgente sur des problèmes d'asphyxie ou d'hémorragie, et c'est des trucs aigus en médecine. Et la notion de symptôme réfractaire est importante, c'est-à-dire que c'est un symptôme qu'on n'arrive pas à traiter, en fait. Donc on a beau mettre tous les moyens qu'on a en place, et la personne peut être toujours douloureuse ou toujours avoir une grosse angoisse, et dans ces moments-là qu'on va mettre en place des sédations. La sédation profonde, donc, et continue maintenue jusqu'au décès, ça se fait à la demande du patient, pour éviter toujours donc toute souffrance et de ne pas subir une obstination déraisonnable. Du moment qu'elle est mise en route, tous les traitements curatifs, donc parler de l'alimentation, de l'hydratation, sont arrêtés. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Par contre, tous les traitements de confort, de soins, pour que la personne soit plus confortable, continuent. C'est-à-dire qu'on a encore des morphiniques. En général, il y a toujours de la morphine dans ces situations-là, parce qu'il y a en règle générale des problèmes douloureux ou respiratoires qui nécessitent ce genre de traitement. Et ça, c'est pas arrêté. On n'arrête que les choses qui ne sont pas utiles et qui sont dans du maintien de vie, alors que là, on est dans un désir d'arrêter tout traitement. Et ça se met en place après une discussion collégiale, hein, parce que c'est pas une décision simple à prendre et que ça se prend pas tout seul. Alors, il y a trois situations. Donc, à la demande du patient atteint d'une maladie grave et incurable, hein, avec un pronostic vital engagé à court terme. Le court terme, c'est moins de 15 jours. Hein. C'est pas 3 mois, quoi. Hein. Pour mettre en route, c'est une sédation profonde. Et c'est avec une souffrance réfractaire. Avec décision d'arrêt d'un traitement engageant son pronostic vital à court terme. Il peut arriver que vous ayez des patients qui sont avec des traitements lourds qui les maintiennent, ça peut être de l'oxygène, des choses comme ça, et qui ont décidé de tout arrêter. On sait que quand on va arrêter ces traitements-là, la personne, elle va être en souffrance énorme. Ça ne va pas être possible de rester comme ça. Donc en fait, dans ces situations-là, ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver, on peut mettre en route la sédation juste avant d'arrêter le traitement, de façon à ce que le patient ne vive pas ces moments qui sont inhumains, hein, de souffrance intense, même si c'est son choix, voilà. Donc, si le décès est attendu dans un délai supérieur à quelques jours, donc c'est ce que vous dites, si le décès est attendu à plus long terme, on fera des sédations, mais qui ne sont pas des sédations profondes. Donc c'est des va-et-vient et ses fonctions. Patient hors d'état d'exprimer sa volonté avec décision médicale d'arrêt d'un traitement, de maintien de vie à l'issue d'une procédure collégiale. Voilà, ça c'est si le patient le demande, il y a une procédure collégiale qui se met en route. Et donc là, c'était ajouter de la vie, soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie. Je sais pas.